vos questions, nos réponses.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Vous êtes près de 3 millions de personnes concernées par la maladie d'Alzheimer, des patients et des aidants. Et parmi ces aidants, nombre d'entre vous exercez une activité professionnelle et êtes amenés à jongler entre plusieurs vies, plusieurs impératifs, plusieurs urgences au quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à l'une de vos questions, une question fondamentale: comment concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle qui se trouve être conjuguée avec votre rôle d'aidant? Comment apporter votre soutien sans vous épuiser physiquement, moralement? Comment ne pas vous perdre en chemin? Pour tâcher de répondre à cette question, ou plutôt à ces questions, et vous donner quelques conseils, quelques pistes, j'ai le plaisir de recevoir Florence Cologne, coach et consultante certifiée. Bonjour Florence.
Bonjour.
Alors vous contribuez à différents réseaux et différentes initiatives, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Bien sûr, alors depuis plusieurs années maintenant, avec le réseau Boost, qui est un réseau de coachs certifiés, on est très impliqués dans des dispositifs de coaching solidaire. On a donc eu plusieurs formules pour accompagner finalement des aidants, notamment de patients Alzheimer, beaucoup. Donc on a eu une première formule qui était du coaching flash, qui est délivré vraiment dans le cadre d'une situation dans laquelle on a besoin de traiter rapidement un sujet et de sortir d'une séance avec un certain nombre de réponses, que ce soit des réponses de l'ordre d'une gestion des émotions de l'instant ou que ce soit des réponses avec un plan d'action concret sur un sujet, par exemple professionnel. Et puis on a mis en place aussi des webinaires d'accompagnement pour les personnes qui retournent à l'emploi après une longue situation d'aidance. Et là, c'était du travail collectif et c'était du travail au long cours. Puis par ailleurs, je suis aussi très active avec l'association Juristanté, qui est une association, comme son nom ne l'indique pas, qui fait du juridique en santé et qui donc propose du conseil juridique dans le cadre de la maladie, dans le cadre du handicap pour les patients, mais aussi pour les aidants. Et dans cet espace, du coup, de consultation juridique qui est gratuit, hein, il y a un numéro de téléphone et c'est un accès qui est totalement gratuit, on s'est rendu compte à l'usage que, effectivement, le coaching était un outil, je dirais, extrêmement utile quand se posent des questions, parce que souvent, vous arrivez sur le versant juridique en vous interrogeant sur un point très précis de votre situation. Et puis, en fait, émerge des questions qui peuvent être un petit peu plus compliquées à gérer, des prises de décision notamment, qui peuvent être complexes à mener. Et donc, dans ce cadre-là, le coaching est un prolongement évident. Et c'est vrai aussi que, du coup, ça se répond très bien. On a commencé à faire travailler le réseau Boost et Juristanté il y a plusieurs années ensemble, parce que quand on était sur du coaching flash, on s'est rendu compte que rapidement, il pouvait y avoir une problématique traitée plus un besoin de conseil juridique extrêmement précis qui émergeait de la séance. Et dans l'autre sens, de la même façon, Juristanté s'est rendu compte que la complémentarité avec le coaching était quand même très très efficace. Et donc voilà, on n'est pas tout à fait sur les mêmes formats. Le réseau Boost plutôt sur du groupe ou de l'individuel en flash, et Juristanté plutôt sur des processus individuels plutôt de long terme.
D'accord. Bien justement, vous avez parlé du coaching comme d'un outil. Pour prendre soin de ses proches, il est tout aussi important de prendre soin de soi. C'est un peu la métaphore du masque à oxygène dans l'avion. Équipez-vous du masque et ensuite seulement aidez les personnes qui en auraient besoin autour de vous. Alors théoriquement, oui, hein, mais dans la pratique, pour les aidants en particulier, qui manquent terriblement de temps et qui sont confrontés à une situation vraiment difficile émotionnellement, c'est plus difficile à appliquer, c'est ça ?
Bah oui, parce que en fait, quand tu es aidant, a priori, tu es la dernière roue du carrosse, puisque de toute façon, il y a une espèce de moteur et d'entraînement qui se fait naturellement, et pas forcément toujours de façon joyeuse, et parfois de façon joyeuse dans ce sens que c'est une évidence et ça fait partie de tes valeurs. Puis parfois, c'est d'une façon contrainte aussi, tu peux te retrouver à être aidant parce que il y a personne d'autre qui va pouvoir le faire, parce qu'il y a une contrainte économique qui fait que... Bah, voilà. Donc c'est pas du tout linéaire ni simple, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand tu le fais, tu es pleinement à ta mission. Éventuellement, le travail est un outil de survie, mais en tout cas, toi, tu passes en mode survie. Enfin, à partir d'un certain moment, hein, bien sûr, pas au début, pas forcément au début.
Bien sûr.
En tout cas, à partir d'un certain moment, tu passes en mode survie. Et effectivement, quand tu passes en mode survie, les choses pour lesquelles tu penses à toi sont des choses absolument essentielles et presque pas vraiment négociables, en fait. Mmh. Et puis le reste, ça passe à la trappe. Aller au ciné, ça passe à la trappe. trouver un moyen de dormir un peu mieux, ça passe pas à la trappe.
Quand les personnes font la démarche de venir vous voir en coaching, de faire appel à vous, quelles sont les principales difficultés que ces personnes rencontrent ou en tout cas, quels sont les premiers sujets qu'ils évoquent, qu'elles évoquent en général ?
Alors, si je devais le classer, le premier sujet, c'est le stress, c'est-à-dire l'impact du stress sur l'état général, sur la vie personnelle et professionnelle, et l'impact du stress sur les relations interpersonnelles. Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet phare. Le deuxième sujet que j'entends aussi absolument systématiquement, même si c'est pas forcément le sujet qui devient central dans le coaching, c'est quand même un constat d'un isolement progressif qui est parfois au départ voulu pour des raisons tout à fait personnelles et spécifiques, mais qui en tout cas à un moment donné peut être subi fortement et devenir très compliqué à gérer parce que ça peut être un isolement qui amène même à ne plus savoir comment faire pour se reconnecter aux autres.
Oui, sortir de l'isolement, c'est un des problèmes principaux.
Oui, quand vous, en fait, vous avez vraiment ce premier sujet qui est le stress, qui est un sujet. Ce que je voulais dire quand je dis que c'est le premier sujet, c'est que c'est un sujet tiroir. C'est-à-dire que quand on ouvre le tiroir du stress, en général, on a tout le reste. On a la difficulté interpersonnelle, on a le regard qu'on porte sur soi, on a des choses qu'on aimerait changer parce qu'on pense qu'elles sont pas viables et elles sont là parce qu'on est très stressé. Donc ça, c'est vraiment le premier tiroir où il y a plein d'éléments qu'on peut mettre à l'intérieur. Et le deuxième sujet, c'est l'isolement, clairement. Mais ça peut être un sujet de second niveau. C'est-à-dire, je vois bien que tout ce que je t'ai raconté sur le stress que je subis et l'impact que ça a sur l'ensemble de ma vie, que ce soit pro ou que ce soit perso, que ce soit dans mes relations interpersonnelles ou ma relation à moi-même, c'est cette problématique de me retrouver isolée d'une façon ou d'une autre. Après, il y a d'autres sujets, évidemment, prendre des décisions, parce que c'est quand même un chemin où tu passes ta vie à prendre des décisions. Et puis, il y a gérer le temps, mais qui est pour moi un des tiroirs de la gestion du stress, hein, très souvent.
Justement, j'aimerais rebondir là-dessus. Avec les aidants que vous accompagnez, tant à traverser certaines épreuves qu'à concilier du coup leur vie personnelle d'aidant avec leur vie professionnelle, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Vous travaillez surtout autour de la priorisation, on va y venir, mais vous travaillez aussi sur une notion de renoncement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu cette notion de renoncement ?
Alors oui, ce que je peux dire quand même au préalable, c'est qu'on pourrait partir du postulat qu'il faut considérer qu'on ne mènera plus la même vie qu'avant. Ce que je constate, moi, dans les accompagnements, c'est que c'est quand même très, très rare qu'il y ait encore cette nécessité de prise de conscience quand les gens arrivent au coaching. C'est-à-dire qu'en général, de toute façon, de fait, t'as plus la même vie qu'avant et t'en es parfaitement conscient. Et donc, le renoncement, il peut être plutôt au niveau du détail. Ce que je veux dire par là, c'est que la conscience du fait que la vie sera plus la même qu'avant est là. En revanche, la clarté de ce sur quoi le renoncement est possible, pas négociable ou différable, par exemple, c'est beaucoup plus flou. Et donc, c'est vrai que le travail sur la question du renoncement, c'est plutôt la mise en lumière de l'impact et des choses que j'ai conscientisées et des choses qui sont un peu moins conscientes pour pouvoir avoir le choix. Parce que le renoncement, c'est pas une fatalité en soi dès lors qu'on a une prise de décision satisfaisante à mettre en face. Et donc, quelle position on va adopter par rapport au détail ? Qu'est-ce que je vais mettre en place ? Parce que ça, je ne veux pas y renoncer. C'est trop important pour moi et ça fait partie de la personne que je suis. Ça fait partie des choses qui comptent pour moi. Et si j'ai pas ça, je ne tiendrai pas la route sur ce chemin des dents. Ça peut être qu'est-ce que je peux mettre de côté sans que ce soit, je dirais, une pénalisation de mon identité, de mon parcours professionnel, de l'aspect financier pendant un temps. Donc ça peut être donc qu'est-ce que je peux différer et ça peut être qu'est-ce que je vais mettre de côté à durée indéterminée en CDI et puis on verra bien si j'en ai encore envie le jour où ce sera possible. Donc voilà, pour moi, il y a un peu ces trois niveaux de structuration du nouveau chemin qu'on a envie de mener. Et donc cette idée que bah, pour prendre une décision, il faut se pencher nécessairement sur l'impact à court, moyen, long terme et l'impact sur la situation dans laquelle on veut se déployer.
Et c'est là que la priorisation, du coup, entre en jeu ?
Je crois qu'être aidante, c'est être un expert en priorisation. Sauf dans le cadre de coaching, j'accompagne des personnes qui parfois arrivent en me disant je suis épuisée, j'arrive plus à savoir ce que je dois mettre en avant, j'arrive plus à organiser, j'ai tellement de choses à faire que j'y arrive plus. Et là on peut le dire, hein, on est sur le bord de la ligne de personnes qui sont potentiellement en situation de détresse, en fait, qui commencent à être dans une forme de détresse, qui est dans une surcharge mentale. Ça peut être au bord d'une dépression, ça peut être au bord d'un burn-out. Vraiment, voilà, il y a ce temps-là. Et souvent, les gens arrivent au moment où le brouillard mental de l'épuisement fait que c'est difficile de prioriser. Mais en quelques séances de travail par le coaching, tu poses les différents éléments et tu structures ton plan d'action. Ce qui est beaucoup plus facile à faire quand on parle que quand on parle pas, quand on écrit
évidemment
que quand on n'écrit pas. Donc voilà, donc je dirais que la priorisation, c'est quand même une spécialité de l'aidant pendant très longtemps. Si tu n'arrives plus à prioriser, c'est que potentiellement tu vas avoir besoin de déposer ta parole quelque part pour pouvoir structurer un plan d'action qui fait que tu es moins dans le brouillard.
La mise en mots est en effet très importante, oui. Et alors, pour continuer sur ce sujet de priorisation, concrètement, quelles sont les premières questions qu'on doit se poser lorsqu'on souhaite tenter de reprioriser les choses dans sa vie, en fait, des dents?
Bah, je dirais que pour pouvoir prioriser, c'est intéressant de se poser la question de savoir les sphères de la vie qu'on identifie comme étant impactées par la situation actuelle. Parce que il y a en réalité des impacts qui vont être différents. Donc, il y a l'impact immédiat. Le temps, et il y a l'impact et le temps à long terme, en fait, l'impact dans le long terme. Donc, il y a effectivement la mesure d'impact, c'est-à-dire, par exemple, sur l'aspect financier, qu'est-ce qui a un impact et qu'est-ce qui n'en a pas, qu'est-ce qui a un impact différé. Donc, sur l'aspect financier, pour moi, il y a vraiment cette première question. Il y a l'aspect financier, il est souvent corrélé à des dossiers administratifs et le boulot. Donc vraiment pouvoir évaluer ce premier niveau. Après, il y a la mesure d'impact, je dirais, physique. Là, aujourd'hui, dans l'état actuel, combien de temps je peux tenir? Et qu'est-ce qu'il faut que je mette en place si je veux tenir ce temps-là? Est-ce que j'ai des choses à aménager ou pas à aménager? Le point essentiel numéro un, c'est où est-ce que j'en suis sur la sécurité de la situation qui me permettra de tenir un certain temps comme ça? Et où est-ce que j'en suis, moi, par rapport à mon état physique de cette situation?
Merci pour ces premières pistes. Faire la démarche, hein, de se faire accompagner, c'est important. Est-ce qu'on pourrait aborder certains cas concrets, les situations anonymes, hein, bien sûr, mais réelles, d'aidants que vous accompagnez ou que vous avez pu accompagner?
Bien sûr. Je dirais que sur les accompagnements qu'on peut faire avec la maladie d'Alzheimer, enfin, il y a vraiment des situations qui peuvent être très, très différentes. Et ce que j'ai pu constater, c'est que quand vous vous retrouvez, par exemple, relativement jeune aidant d'une personne qui a Alzheimer, le premier niveau d'impact, il est sur l'organisation de la vie professionnelle. Et autant que vous avez des personnes qui vont avoir un écosystème professionnel qui leur permet d'aménager les deux côtés, et donc de pouvoir les faire coïncider et d'arriver à fonctionner pendant longtemps, pendant des années et des années. Et puis, il y a des personnes qui peuvent être dans des situations beaucoup moins favorables et qui vont nécessiter, par exemple, de réfléchir à « je ne peux plus faire ce boulot, je ne peux plus faire ce boulot à cet endroit, donc qu'est-ce que je vais devoir faire ?» Donc, il peut y avoir cet impact qui peut être absolument transparent sur la carrière, comme ça peut être extrêmement bouleversant sur la façon dont on se projette et ce qu'on peut faire.
Quelles sont les solutions qu'ont pu trouver certains de vos coachés, par exemple, sur la gestion du temps et la gestion du temps de travail, par exemple?
Alors, concernant la gestion du temps, c'est un sujet extrêmement épineux, puisque je crois que c'est une des denrées les plus rares et précieuses dans l'emploi du temps d'un aidant. J'ai eu à accompagner des personnes qui, par exemple, avaient l'opportunité de mettre en place du télétravail, mais de le renforcer pendant la période des danses, ce qui sous-entend qu'ils avaient la possibilité de parler de leur situation et de demander un aménagement. Et donc, le télétravail, c'est très précieux parce que ça permet d'être présent. Maintenant, l'impact négatif, finalement, quelque part, d'être présent, c'est qu'il n'y a pas de décrochage. Donc, je dirais que la gestion du temps, un des outils, c'est le télétravail. en ayant toujours en tête que le risque, c'est bien entendu d'être dans une ultra-présence qui fait que petit à petit, vous êtes sollicité, notamment avec Alzheimer, hein, vous êtes sollicité par votre proche un peu à l'envi, qui fait qu'il peut y avoir, je dirais, un délabrement de l'attention autour de la mission professionnelle. Et donc, je me souviens d'une personne que j'avais accompagnée, qui était cadre supérieur dans la fonction publique, et qui se retrouvait dans cette problématique-là d'arriver à cloisonner les moments où elle était en télétravail et où son proche pouvait interagir avec elle. C'était pas simple, donc il a fallu mettre en place réellement des plans d'action, hein. Il a fallu vraiment réfléchir sur des solutions et des stratégies pour pouvoir rendre ça possible. C'est juste pour dire, le télétravail, c'est vraiment très précieux et en même temps, bah, il y a forcément des effets et donc il faut forcément aussi avoir de quoi se prémunir contre ces effets et se protéger.
Ça fait partie des clés hein, qui peuvent être envisageables hein, pour les aidants, mais effectivement, il faut pouvoir réfléchir à la manière de mettre en place ce type de solution.
Oui, et ça sous-entend donc, effectivement, quand tu mets en place ce type de solution, ça veut dire que quelque part, tu rentres à l'intérieur de la bulle et tu mets tes deux mondes ensemble, tu les vis ensemble, ils doivent cohabiter, ils sont en colocation. Et en fait, objectivement, avec cette image-là que je vous donne de la bulle, c'est en sortant de cette bulle, de façon régulière, choisie, déterminée, qu'on se protège le mieux. Mais parfois, ça peut pas être régulier, choisi et déterminé. Parfois, on peut faire que l'un de ces trois éléments-là. L'action, c'est alors de simplement trouver un moyen de sortir de la bulle. Mais je dirais que ça, c'est ce qu'on appelle les actions de confort, hein. C'est non négociable. C'est-à-dire, s'il y a le télétravail, il doit y avoir la conscience qu'on rentre dans une bulle qui fait cohabiter deux espaces qui sont pas censés cohabiter ensemble. Et ça génère un besoin impératif de sortir de la bulle pour pouvoir continuer à fonctionner. La plupart du temps, d'ailleurs, dans les personnes qu'on accompagne en coaching et qui ont pu mettre en place du télétravail, elles sont très contentes quand elles ont des journées au boulot, hein.
Une autre question liée au temps, mais alors on parlait de l'idée de prendre soin de soi aussi, un temps que beaucoup d'aidants estiment ne plus avoir. J'imagine que c'est une question que vous abordez aussi en coaching. Si vous aviez un premier conseil pour ces personnes pour essayer de trouver un moment à soi, pour essayer de le définir ce moment-là, est-ce que vous auriez un conseil ?
Alors je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que pour personne le temps, le moment est le même, de même que la durée nécessaire est la même pour personne. Mais je dirais que quand on est dans une situation installée depuis un moment et que donc ça nous prend énormément de temps, un des outils que je trouve intéressant, c'est de se poser la question si je me donne X minutes dans la journée qui vont me permettre de me ressourcer en dessous de 10 minutes. Hein, ça c'est le conseil par contre que je peux vous donner. Qu'est-ce que je peux faire qui ne dépend que de moi et que je pourrais reproduire une fois tous les jours ou bien deux fois tous les jours ou bien une fois tous les deux jours. Mais en tout cas, en le repoussant pas d'une semaine sur l'autre, quoi.
Qui est envisageable, qui peut être réaliste pour la personne en vue de tous ces impératifs.
Réaliste, réalisable, défini dans le temps et dans laquelle on a une idée de ce qu'on va mettre. Et le dernier point, c'est dont on sait ce qu'elle peut nous permettre d'obtenir de plus. Et donc, il y a cette question-là qui peut se poser et puis la vérifier en se disant est-ce que elle est bien temporellement définie? Est-ce qu'elle a bien un nom, cette petite virgule que je me donne dans ma journée? Est-ce que je sais bien ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que c'est que je veux me donner des chances de mieux dormir? Est-ce que c'est que je veux me donner des chances de ne pas crier? Et vérifier qu'il ne dépend que de soi. Ça maximise les chances de pouvoir le faire. Et puis voilà, après si en plus on peut lui donner une régularité, c'est chouette.
Merci pour ces conseils. Le mot de la fin peut-être pour les aidantes et les aidants qui nous écoutent et qui hésitent peut-être encore à se faire accompagner justement parce que c'est du temps. Que souhaiteriez-vous leur dire ?
C'est une très bonne question. Je dirais comme ça, naturellement, on a quand même un système interne qui est assez bien fait. En général, on arrive à mettre en place ce genre d'initiative quand on est prêt à le faire. Mais je peux dire aussi que parfois, il y a des choses qui font qu'on n'y va pas. Par exemple, se dire « Non, mais non, c'est bon, j'ai réussi jusqu'à maintenant, je vais y arriver, ça va le faire. » Et donc, quand c'est des choses comme ça qui sont un peu en surface, des espèces de pensées automatiques, c'est-à-dire une partie de vous qui vous dit « Non, mais continue, sois fort ben », là, vous pouvez potentiellement vous dire que, en fait, vous êtes déjà en zone de risque et que ça vaut le coup peut-être de parler à quelqu'un d'autre qui est à l'extérieur du système et de la bulle de la situation pour pouvoir justement travailler sur les sujets clés que vous avez identifiés. Parfois, c'est difficile d'identifier les sujets clés, justement parce qu'il y a ce phénomène d'épuisement qui amène du brouillard mental. Et donc parfois, c'est aussi juste se contenter de se dire « je suis en train de me dire qu'il faut que je continue d'être fort ou forte, donc ça veut dire que j'ai peut-être besoin d'aide ». Donc je dirais oser s'écouter et oser écouter le fait quand on se s'ordonne et qu'on est dans l'injonction d'être fort, c'est souvent qu'on commence à être un peu épuisé. Et le coaching, c'est finalement investir un temps donné pour pouvoir mieux utiliser le suivant. C'est exactement comme quand un manager vous dit « je peux pas, j'y arrive pas, je vais pas y arriver, j'ai pas le temps de m'occuper de ça » et qu'en fait, la perte de temps sur le projet à gérer pour l'équipe est considérable parce qu'on ne s'est pas penché sur l'organisation en amont. Donc voilà, investir un petit peu de temps en amont permet souvent de fluidifier en aval.
Et on revient aussi du coup à notre métaphore du masque à oxygène. Il faut aussi pouvoir se préserver pour continuer sa mission d'accompagnement.
C'est le principe de la symétrie des attentions. Il fonctionne dans tout type d'organisation, y compris à l'intérieur d'une famille et à l'intérieur d'une personne. L'attention que tu portes aux autres sera qualitative si effectivement elle est proportionnelle quelque part à l'attention que tu te portes à toi. Et proportionnelle, ça ne veut pas dire à temps égal, par exemple. Proportionnelle, ça veut dire donner autant d'amour à l'autre que de s'en donner à soi dans ces circonstances-là. Et ça peut être particulièrement difficile. Hein. Donc avoir en tête que la symétrie des attentions, c'est quelque chose qui fera de soi une personne qui est plus à même d'affronter la suite et une personne qui est aussi plus à même d'aider son proche, c'est important.
Merci beaucoup pour ces éclairages, Florence, et merci d'avoir répondu à nos questions.
Eh ben, je vous remercie, moi aussi, de ce temps passé ensemble, et à bientôt.
Et merci à vous qui nous avez écoutés, merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt sur la radio de France Alzheimer. En attendant, prenez soin de vous.
Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.